La Chine n'a pas l'intention d'installer une base militaire aux îles Salomon, ce petit pays de l'océan Pacifique. Si Pékin se sent obligé de le préciser aujourd'hui, c'est que son projet de partenariat inquiète beaucoup les États-Unis d'une part et l'Australie, située à seulement 2000 km des îles Salomon. Pour en parler, nous recevons Bastien Van Den Dyck. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes analyste en relations internationales. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet que Pékin appelle une vision commune du développement. Que sait-on exactement des intentions de la Chine ?
Alors aujourd'hui, finalement, assez peu, puisque les éléments de l'alliance sécuritaire que Pékin veut nouer avec Honiara n'ont pas fuité. On peut quand même supposer que les échanges commerciaux qui se sont accrus et qui ont abouti finalement à cet accord sécuritaire mèneraient tout doucement la Chine à installer sa première base militaire dans la région, dans les îles Salomon, dans les mois, voire les années à venir.
Oui, parce que ça, c'est l'un des éléments clés liés à la coopération économique à la sécurité.
Tout à fait. Le développement chinois dans la région passe d'abord par l'économie, c'est-à-dire que la Chine phagocyte petit à petit des pans de l'économie de ces territoires insulaires qui sont très fragiles et qui ont besoin d'ailleurs des grandes puissances pour pouvoir se financer, notamment via l'aide au développement. Et une fois que la Chine est bien en place dans le secteur économique, alors elle crante, si vous voulez, et commence à développer une influence politique et puis ensuite, bien évidemment, sécuritaire.
D'ailleurs, Pékin explique que cette implication chinoise, elle se fait à la demande des autorités des îles Salomon.
Oui, alors c'est particulier, c'est-à-dire qu'effectivement, les îles Salomon ont connu des troubles civils il y a quelques mois, en novembre dernier, quand des manifestants anti-chinois ont décidé de conduire des émeutes. Et donc, dans ce cadre-là, le premier ministre des îles Salomon, M. Sogavare, avait demandé l'aide de grandes puissances pour pouvoir rétablir l'ordre. Les Australiens, à l'époque, avaient déployé sur zone un certain nombre de forces de l'ordre. Et aujourd'hui, l'accord de sécurité que M. Sogavare passe avec Pékin a pour motivation, effectivement, de permettre à la Chine de pouvoir aider les îles Salomon à maintenir, on va dire, l'ordre sur leur territoire.
Qu'est-ce qui s'était passé en novembre dernier ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi la communauté chinoise avait été prise pour cible ?
Alors, il faut remonter un petit peu plus que novembre dernier. Pour être précis, il faut remonter en septembre 2019. Les îles Salomon, historiquement, sont un pays qui reconnaissent Taïwan. Et en 2019, le nouveau premier ministre salomonais, M. Sogavare, est élu. Et M. Sogavare est un historique soutien de la Chine. Et donc, en 2019, les îles Salomon arrêtent de soutenir et de reconnaître Taïwan. Ils reconnaissent, en fait, si vous voulez, la Chine. Et si vous voulez, les Chinois vont conduire tout un tas d'investissements aux îles Salomon, mais principalement sur l'île de Guadalcanal, où la capitale se trouve, Honiara, ce qui va susciter un grand nombre de malaises et de réprobations de la part des autres populations, notamment les Malaïciens qui viennent de l'île de Malaïta. Et donc, petit à petit, cette colère vis-à-vis du pouvoir en place aux îles Salomon, cette colère vis-à-vis de M. Sogavare, va se transformer en émeute, et ces émeutes vont cibler premièrement les communautés chinoises et les totems, si vous voulez, de la présence chinoise, notamment l'ambassade, et ensuite vont se dériver vers carrément des totems nationaux, puisque la résidence du Premier ministre sera incendiée en novembre dernier.
Alors, on parle des îles Salomon, où est attendu d'ailleurs le ministre chinois des Affaires étrangères, mais d'après des révélations du journal britannique Le Guardian, la Chine espère signer ce partenariat dont on parle avec 10 États du Pacifique dans les prochains jours.
Oui, alors il y a deux choses. C'est intéressant puisque le voyage là, des prochains jours du ministre des Affaires étrangères chinois est historique. Il n'y a jamais eu un voyage d'une telle ampleur. Il va visiter tous les pays indépendants ou presque de la région. Et en fait, si vous regardez la zone qu'il visite, vous avez tous les pays de la Mélanésie. Et en fait, si vous prenez une carte, c'est une chaîne d'îles. Et cette chaîne d'îles permet aux Chinois, en développant des rapports économiques et ensuite donc des rapports de défense, comme il le fait avec les îles Salomon, de contrer le containment américain qui se fait à leurs frontières maritimes, c'est-à-dire au Japon, aux Philippines, et eux-mêmes d'en créer un autour des Australiens, au large de l'Australie, puisque finalement, cette chaîne d'îles n'est pas si éloignée que ça de l'Australie. Et donc, finalement, les Chinois en comptant d'abord sur des sujets économiques, amène tout simplement, en fait, si vous voulez, des facilités de défense pour eux. Dans ce voyage du ministre des Affaires étrangères chinois, on a notamment un passage au Vanuatu sur le financement de la Chine d'une nouvelle piste aérienne sur l'île de Santo, ou l'ouverture de la pêche dans les Kiribati. Donc vous voyez bien qu'en fait, d'abord, il y a un intérêt économique, et ensuite, cela se transforme dans une réalisation de défense de sécurité, où la Chine, dans la zone, essaie d'étendre sa région pour contrer l'influence occidentale qui est historiquement positionnée.
Et notamment l'influence des États-Unis. Cette zone pacifique, un peu comme Taïwan, hein, d'ailleurs, fait l'objet d'une guerre d'influence entre Washington et Pékin. Et on attend aujourd'hui un discours du chef de la diplomatie américaine. Il doit appeler la Chine à respecter l'ordre international. Ça veut dire quoi, respecter l'ordre international pour les Américains ?
Bah ça veut surtout dire respecter leur vision et leurs intérêts dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont longtemps délaissé cette zone, pensant qu'elle était sous leur influence et que rien ne changerait. Et ces 20 dernières années, un certain nombre d'influences asiatiques, mais particulièrement la Chine, se sont développées dans la région. Et ça a amené les Américains à perdre tout simplement une position dominante dans un espace qui est très important pour eux. Et malheureusement, aujourd'hui, ils essaient de revenir dans la région, mais avec du retard. La Maison-Blanche avait annoncé d'ailleurs qu'elle prévenait la Chine que si elle développait des intérêts militaires dans la région, elle répondrait en conséquence. Donc il va falloir écouter avec intérêt ce que dit aujourd'hui la diplomatie américaine, parce qu'on pourrait monter encore d'un niveau dans les tensions dans la région.
En quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est aussi un moyen de montrer que les États-Unis ne sont pas concentrés que sur les rapports avec la Russie et la guerre en Ukraine.
Tout à fait, c'est un moyen de montrer que l'hyperpuissance américaine s'installe non pas qu'en Europe, non pas que contre la Russie, mais également dans les autres zones du monde et dans des zones qui sont particulièrement importantes pour les intérêts américains et donc effectivement dans le Pacifique. Et puis on retrouve finalement en filigrane un petit peu le pivot asiatique qu'avait débuté à l'époque Barack Obama, dont l'ancien vice-président est l'actuel locataire de la Maison-Blanche.
Merci Bastien Van Den Dijk d'avoir été avec nous, analyste en relations internationales. Vous êtes spécialiste, on a pu l'entendre, du Pacifique.